L'émission d'info locale.
Brest.
Vous écoutez. Salut tout le monde. Vous écoutez C'est vous qui le dites, notre quotidienne d'info locale du lundi au jeudi à 18h. Aujourd'hui, c'est une quotidienne un peu plus courte puisqu'on aura seulement une interview et on va parler plantes et conservation puisqu'on reçoit Stéphane Buor du Conservatoire Botanique National de Brest. Bonjour Stéphane.
Bonjour Emma.
Ça va ?
Ça va. Et vous ?
Très bien. Donc le Conservatoire Botanique National de Brest, CBN, il fait partie des 14 conservatoires botaniques nationaux en France. C'est quoi exactement un CBN ?
Un CBN, c'est un établissement public. Donc, Conservatoire Botanique National, un établissement public, scientifique et technique, qui a pour charge de préserver la flore menacée et les habitats naturels en France, en général. Donc, les 14 conservatoires botaniques nationaux se divisent le territoire français, qu'il soit métropolitain ou outre-mer. Pour celui de Brest, notre territoire d'agrément, c'est son nom, c'est la Bretagne, la région Bretagne, à 4 départements, et la région Pays de la Loire à 5 départements.
D'accord. Voilà. Et du coup, le rôle, ça va être de développer les connaissances sur le patrimoine.
Oui, c'est ça. On a plusieurs missions qui sont fixées par un cahier des charges national par le ministère, édicté dans les années 90. Brest était un des tout premiers conservatoires botaniques nationaux créés en France. Aujourd'hui, on en a 14, vous l'avez dit. Les missions sont donc identiques selon les territoires. Et la première mission, c'est une mission de connaissance. Pour bien préserver la flore et les habitats naturels, il faut la connaître. Donc c'est un travail très important, c'est celui qui nous occupe probablement le plus au conservatoire, c'est produire de la donnée, être capable de la triturer, de l'analyser, de la structurer, de manière à la rendre utile et à définir des enjeux de conservation. Donc la connaissance, la diffusion aussi des données aux différents partenaires demandeurs, et puis je dirais les actions de conservation opérationnelles. Nous-mêmes ne sommes pas propriétaires de réserves naturelles, on est aide aux gestionnaires, les gestionnaires qu'ils soient publics ou privés. Donc ça, c'est de l'opérationnel. Offrir aussi une expertise aux différents demandeurs. Donc ces demandeurs, c'est peut-être l'État, ça peut être la région Bretagne, le département du Finistère ou un autre département de notre territoire d'agrément, ou aussi des partenaires privés, des agriculteurs par exemple, puisqu'ils sont aussi évidemment gestionnaires du patrimoine végétal dans l'ouest de la France. Et puis une mission très importante d'éducation et de sensibilisation.
Et comment vous faites ça ?
Mais on a des personnes qui sont très pointues et spécialisées là-dedans. Alors, pour parler de botanique, vous avez des botanistes, des phytosociologues, des gens qui savent inventorier la flore, qui savent faire des inventaires, des cartographies, qui savent produire des jugements, établir des protocoles pour pouvoir gérer au mieux, finalement, la flore dans des situations compliquées. Il y a beaucoup de raisons de pression sur la flore, si vous voulez. Donc, à nous, ensuite, d'adapter tout ça. Et puis, par exemple, pour les questions de sensibilisation ou d'éducation, eh bien là, on a des éducateurs scientifiques, en fait, qui travaillent dans l'équipe du conservatoire, et leur rôle, c'est justement de travailler avec les scolaires ou aussi les particuliers, de manière à leur montrer ce qu'est la flore, leur faire comprendre et connaître la flore et les habitats naturels, ses richesses, ses fragilités, et aussi, évidemment, de fil en aiguille, amener à aimer finalement ce matériau, ces êtres vivants que sont les plantes. Et derrière ça, l'objectif, c'est évidemment de les préserver et de les valoriser.
Et pourquoi c'est important du coup que...
D'après vous, pourquoi c'est important de préserver la flore ?
Oui, bah...
La flore, c'est la base de la chaîne alimentaire, ça c'est très trivial. Donc évidemment, sans la flore, tout le reste s'effondre, on n'a plus d'espèces. Sur Terre, dont la nôtre, hein, donc on a quand même au moins un peu d'affinité pour notre espèce. Mais je pense qu'au-delà de cette vision très anthropocentrée, l'intérêt de préserver la flore, c'est aussi la qualité des habitats qui est conservée, sa richesse et sa diversité. Je dirais même que sa richesse, c'est sa diversité. C'est cette diversité qui est intéressante. Et sans cette base qu'est la flore, évidemment, toutes les espèces qui tournent autour de cette base dépériraient. Donc, c'est important en soi si on aime le vivant, la biodiversité, la vie en général.
Et on aime, normalement.
Bien.
Et vous parliez tout à l'heure du fait que le Conservatoire de Brest était un des premiers. Du coup, vous fêtez vos 50 ans déjà.
Oui, c'est ça. En fait, à cette époque, on est en 1975. Le conservatoire, il n'y avait aucun conservatoire botanique dans le monde, hein, ça n'existait pas. L'idée est venue conjonction de personnes, mais on dira que c'est Jean-Yves Le Souef, qui est botaniste breton, qui avait eu cette intuition, cette idée. Il n'y avait pas de lieu qui soit comme ça dédié à la préservation de la flore, au sauvetage d'espèces menacées, etc. Donc il a eu cette intuition. Et l'idée pour lui, c'était de créer un espace qui soit réservé à ça, visible. Ça existait pour les animaux. Mais pour les plantes, ça n'existait pas. Donc, il a proposé ce projet et la mairie de Brest, à l'époque, la communauté urbaine de Brest, en fait, a validé ce projet dans un espace qui n'était qu'une carrière abandonnée et une déchetterie, en fait. Donc, ça a été une création complètement unique au monde. C'était le premier conservatoire botanique créé dans le monde. Le monde n'existait pas. Et dans un espace qui est totalement remodelé. Et aujourd'hui, je vous invite tous à passer au Vallon du Stangalard, à Brest, qui est un exemple de réhabilitation aussi d'un espace naturel très dégradé.
Et du coup, en 1975, il y avait déjà cette idée d'essayer de conserver les espèces.
Oui, dans la tête de quelques personnes. Vous savez, ce n'était pas très répandu. Pour les animaux, le grand public commençait à en entendre parler, mais pour les plantes, non, c'était quelque chose de très rare. On n'imaginait pas qu'une plante puisse mériter d'être conservée comme ça. Parce qu'on n'a pas forcément conscience que certaines espèces n'existent que sur quelques hectares, sur toute la Terre.
Mmh. Et donc, au Conservatoire Botanique National de Brest, donc CBNB, il y a plusieurs volets. Il y a l'idée de travailler donc, différentes actions scientifiques sur le territoire Grand Ouest. Il y a un volet à l'international et le jardin botanique. Et toi, votre rôle, oui. Du coup, ça va être de travailler sur l'international et le jardin botanique. En quoi est-ce que ça consiste?
Tout à fait, oui. Le conservatoire botanique de Brest est d'ailleurs le seul parmi les conservatoires botaniques nationaux à travailler à l'international. C'est une composante qui n'existe qui existe depuis ses origines. L'idée, au départ, était, c'était dans ses gènes, finalement, de travailler pour la préservation des espèces au bord de l'extinction, quelle que soit leur origine, que ce soit des espèces de l'ouest de la France ou des espèces très lointaines. Et c'est vrai que depuis 50 ans, il y a plusieurs bilans intéressants dans cette action internationale au Conservatoire botanique, parce que, d'une part, on a réussi à regrouper à Brest, dans les serres, dans la banque de graines de Brest, dans nos collections en pépinière au jardin botanique, une collection de 1800 espèces au total qui sont menacées au sens de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc ce sont des espèces au bord de l'extinction, ce qui fait que si on compare un peu par rapport aux grandes collections mondiales, Kew Gardens à Londres, le jardin botanique d'Édimbourg par exemple, Brest aujourd'hui a la plus grande collection au monde de plantes menacées à l'international. Alors, principalement issus des archipels océaniques. Les archipels océaniques, par exemple, c'est l'archipel canarien. Madère, Açores, vous voyez ce qu'on appelle la Macaronésie, ou les Mascareignes. La Réunion, Rodrigue, Maurice, ça, c'est l'archipel des Mascareignes. Il faut imaginer que ces îles-là, quand elles sont nées de rien, volcaniques, au départ, il n'y avait aucune plante dessus. En quelques millions d'années, ben, vous avez des plantes, quelques graines qui sont venues du continent, qui ont évolué seules, finalement coupés des autres, et qui ont créé de nouvelles espèces, pour faire court. Donc vous avez un endémisme des espèces qui n'existent que là, dans le monde, au bout de quelques millions d'années. Et ce sont ces flores-là, insulaires, qui nous intéressent particulièrement, parce qu'elles sont à la fois très rares et uniques au monde, et en même temps extrêmement menacées, parce que ce sont de tout petits univers qui n'ont pas connu, je dirais, les menaces du continent. Et quand les menaces du continent sont arrivées, en général, avec les colons européens, c'est à ce moment-là que les grands dégâts ont été faits, à la fois sur la faune et la flore. Donc cette flore nous intéresse. C'est ce qu'on appelle les hotspots de biodiversité.
Et du coup, vos missions à l'international, ça va être d'essayer de récupérer...
Alors c'est plusieurs choses, effectivement. Dans un premier temps, c'était beaucoup des sauvetages. C'est-à-dire qu'on avait déjà l'intuition que certaines espèces, demain, n'existeraient pas. Donc on soustrayait finalement des espèces qui allaient disparaître demain parce que à la fois la déforestation, l'arrivée des espèces invasives, etc., tout ça fait que les milieux disparaissent, donc ces espèces-là disparaissent. C'est quelque chose qu'on peut aussi encore pratiquer maintenant. Mais aujourd'hui, l'essentiel de notre travail à l'international, c'est d'une part d'aider les populations locales, donc au plus près des enjeux de conservation, à développer des structures de conservation sur place. C'est ainsi que, par exemple, à Madagascar, on développe des pépinières forestières avec les différentes ONG ou les populations locales de villageois, etc. Ça peut aussi être aider des ONG. Là, par exemple, bientôt, cette année, en principe, on va aller au Cap-Vert pour monter la première banque de graines d'espèces indigènes au Cap-Vert, voilà, à la demande d'une ONG. Donc c'est intéressant, c'est des partenariats, c'est un savoir-faire qu'on a à Brest et qu'on essaie finalement, pour faire gagner du temps à nos partenaires, de transmettre.
Et vous êtes aussi en charge du jardin botanique. En quoi ça consiste ?
Alors le jardin botanique du conservatoire botanique a plusieurs fonctions, plusieurs missions aussi. D'abord une mission de conservation qui est basée sur sa collection. Donc la collection dont je vous ai parlé, 1800 espèces, etc. Mais il faut les faire vivre. Cette collection n'a de sens que si la collection vit. Donc les actions qui sont menées à l'international, comme les actions de réintroduction de certaines de ces espèces, par exemple, qui ont disparu dans la nature, ça c'est une manière de faire vivre la collection. Donc vous avez une mission de collection et de connaissance, une mission de conservation avec ses actions opérationnelles, et puis vous avez une mission aussi d'éducation et de sensibilisation du public scolaire, du public adulte. Et évidemment, ces espaces-là, qu'il s'agisse du jardin ou de nos serres, ce sont des espaces qui en ce moment, tous les jours, sont fréquentés, notamment par des scolaires et bientôt, aux périodes de vacances, par des particuliers.
D'accord. Et justement, en parlant de collection, vous êtes aussi là parce que vous venez de recevoir la plus grande collection mondiale d'éonium au monde. Et on va en parler juste après, une petite coupure musicale, puisqu'on va écouter « On a marché sur la Lune » de Voyou. Bonne écoute sur Radio U.
Sous le ciel noir, sous le ciel noir. Quand d'un coup la nuit tombe dans les villes, on l'aperçoit, on l'aperçoit, on l'aperçoit. Depuis des millions d'années dans la nuit, elle guide nos pas, guide nos pas, guide nos pas. Et de nos histoires, elle connaît déjà la suite et la fin, la suite et la fin, la suite et la fin. Mais nous d'elle, on ne savait rien, alors on a fait du feu, on a fait du fer et de la lumière. On a joué les sorciers, déjoué le sort, puisé dans le sol, puisé dans les eaux, puisé dans le ciel. Appris des abeilles, appris des oiseaux, construit des voitures, construit des avions. On a construit des fusées, démoli de nous des milliers d'années pour aller plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Pour aller en l'air, voir ce qui se trame, briser le mystère. Et quel mystère ! Des milliers d'années à la regarder sans savoir quoi faire, changer nos humeurs, changer nos journées, guider nos travers, guider nos marées. Alors on a tout donné de nous-mêmes. On s'est lancé dans le ciel, en priant ce haut sol. On a pris d'assaut le ciel, d'assaut le ciel, d'assaut le ciel, d'assaut le ciel. On a marché sur la lune, on a marché sur la lune, on a marché sur la lune. On a mis les deux pieds dessus, on a marché sur la lune, on a marché sur la lune, on a marché sur la lune, tuant toutes les théories, on a marché sur la lune, on a marché sur la lune, on a marché sur la lune, tuant toutes les rêveries, on a marché sur la lune, on a marché sur la lune, on a marché sur la lune, on a marché sur la lune.
tout en haut. Et dans nos rêveries, on n'égale que nos égaux. Toujours plus vite, toujours plus haut. On a marché sur la lune, on a marché sur la lune.
C'était « On a marché sur la Lune » de Voyou sur Radio U 101.1 et on est toujours avec Stéphane Buor du Conservatoire Botanique National de Brest. On a parlé du rôle des CBN et de celui de Brest et on continue donc avec la dernière actu du Conservatoire. Tout récemment, vous avez reçu la plus grande collection d'éoniums au monde qui a rejoint votre conservatoire. C'est quoi un éonium ?
Ah, c'est difficile à qualifier. C'est une plante très belle, une plante succulente, on va dire, donc une plante aux feuilles assez grasses, un peu crassulescentes. C'est un, disons, certaines sont plutôt du style arbuste, vous voyez, donc pas très haut, un mètre de hauteur maximum. Et puis d'autres sont un peu plus courtes, sur des petits troncs, ou de façon plante vivace, avec des rosettes de feuilles, disons, lancéolées, donc en forme de lance, un peu. Je ne mettrai pas trop de termes botaniques dedans. Enfin, vraiment pour faire très très court, si vous voyez quelque chose qui pourrait ressembler à une joubarbe sur un petit tronc, ben c'est un petit peu ça.
D'accord.
Pardon pour les botanistes.
Et où est-ce qu'elles poussent ces plantes ?
Alors, les éoniums, c'est une plante très. C'est un groupe de plantes, c'est un genre de plantes qui contient à peu près une cinquantaine d'espèces. Et qui ne vivent dans le monde que dans deux secteurs bien caractérisés, à la fois du côté des îles Canaries, Maroc, Cap-Vert, vous voyez, à l'ouest de l'Afrique, et à l'est de l'Afrique, donc en Afrique de l'Est, jusqu'au Yémen à peu près, on va dire, Somalie, Yémen, etc., de ce secteur. Et sa répartition mondiale, c'est uniquement ces deux points-là. C'est assez curieux, ça doit pouvoir se justifier au niveau évolution, dérive des continents, etc., migration des populations. Mais c'est une répartition très, très intéressante, intrigante.
Et cette collection, du coup, la plus grande au monde,
oui.
Vous l'avez reçue, mais c'est quelqu'un qui vous l'a donnée.
Oui, tout à fait.
Quelle est l'histoire ?
Oh, c'est une histoire, c'est une histoire botanique et une histoire d'amitié aussi. Avec un pépiniériste qui est également botaniste et qui s'appelle Hubert de Bache et qui est venu il y a quelques années maintenant à la pointe du Finistère installer sa pépinière, une pépinière spécialisée justement dans ce groupe, dans les éoniums. Lui s'était mis en tête de constituer une collection de référence avec toutes les espèces du groupe. Donc il a à la fois eu cette intuition et cette inspiration de vouloir aller à la rencontre de ces espèces dans leur milieu naturel, prélever des graines, des échantillons de ces plantes pour les ramener de manière à avoir du matériel de référence finalement, les multiplier et de manière aussi à avoir l'exhaustivité du groupe. De manière à la fois, c'est un plaisir, hein, c'est un plaisir de collectionneur, mais c'est aussi très utile en termes de conservation. Certaines espèces d'éoniums, aujourd'hui, sont éteintes dans la nature. Donc c'est très important en termes de collection de pouvoir dire, voilà, cette espèce est certes éteinte dans la nature, mais nous en possédons une certaine variabilité génétique en collection et nous gardons la possibilité, cette ressource pour pouvoir un jour peut-être la réintroduire en nature lorsque les conditions de nature seront plus favorables. Donc pour un conservatoire, c'est évidemment très intéressant. Voilà l'esprit.
Et donc ça, c'est très, du coup, ça va très bien avec l'idée de conserver, quoi, même les espèces menacées.
Oui, tout à fait, c'est vraiment dans l'esprit. Je vous ai dit qu'on avait une collection internationale de référence. Et c'est vrai que notre objectif, c'est justement de se servir de ce havre de conservation que sont les conservatoires botaniques avec des banques de graines, donc où les graines sont conservées à moins 20 degrés à peu près, moins 18, moins 20 degrés Celsius. et en jardin botanique, en serre, de façon à conserver une collection de plantes qui, certes, peuvent avoir disparu ou être extrêmement rares en nature, mais que cela constitue une ressource pour pouvoir mener ensuite des actions de conservation, des actions de conservation, mais aussi des actions de pédagogie. Parce qu'on se sert toujours de la réintroduction d'une espèce comme un cheval de Troie et expliquer finalement, bah, notamment aux populations locales, pourquoi on fait ça. Pourquoi ça a du sens de préserver la nature. C'est pas seulement préserver une espèce, mais c'est aussi préserver des habitats naturels. Quand on dégrade ces habitats naturels, en général, les populations subissent des problèmes à la fois d'approvisionnement en eau, parce qu'il faut une végétation pour filtrer l'eau, pour conduire l'eau, pour conserver l'eau. Là où vous n'avez plus de végétation, vous n'avez plus d'eau. Et vous n'avez plus de sol. Donc, à la fois, vous avez un problème pour boire et un problème d'agriculture. Voilà. Donc, on n'en est pas là avec ces questions d'éonium, mais n'empêche que vous voyez que ces plantes vivent dans des milieux quand même relativement arides, subarides, bien que certains secteurs aussi soient très arrosés. Quand on vit aux Canaries, c'est un climat très particulier.
Et comment on les conserve, du coup, en Bretagne ?
Alors, en Bretagne, ce sont des plantes qui s'acclimatent très bien sous climat breton, alors avec des variabilités. Mais il faut bien s'imaginer que ces plantes qui peuvent être ou bien, disons, de type méditerranéen ou montagnard ou vraiment dans des ambiances plus ou moins sèches avec des périodes aussi de pluviosité importante, etc., sont des plantes qui, globalement, s'acclimatent quand même très bien sous le climat breton. Donc, on peut les cultiver en jardin, mais en ce qui concerne le conservatoire botanique, pour nous, il est souvent plus intéressant de conserver aussi des plantes en banque de graines. Parce que dans quelques centimètres cubes de pilulier d'une banque de graines, vous pouvez conserver des centaines, voire des milliers de spécimens. Et c'est le cas des éoniums qui donnent des graines absolument minuscules. Bien qu'il y ait de la variabilité, on n'en a pas trop parlé, je vous ai dit au total, on a cette espèce qui est cette collection qui est exhaustive avec une grosse cinquantaine d'espèces d'éoniums. Ce sont toutes les espèces présentes dans le monde. Donc c'est vraiment une collection parfaite, c'est formidable. C'est un cadeau formidable. Mais c'est vrai qu'on a ensuite la mission, le devoir de la conserver à long terme, c'est-à-dire pour les générations suivantes aussi. Et pas seulement pour nous, de pouvoir s'en servir pour la diffuser auprès de jardins, de conservatoires botaniques qui pourraient être intéressés, notamment dans un but de conservation, évidemment.
Et Hubert Debache, du coup, qui est un passionné, qui collectionne ça et donc qui a fondé la ferme botanique de Kerveat. Il vous l'a confié pour ces raisons-là, du coup, pour assurer la conservation ?
Oui, tout à fait. Lui était passionné de botanique, passionné d'éonium, à la fois botaniste, mais aussi pépiniériste. Donc ce goût aussi pour l'échange, parce que non seulement on multiplie des plantes, mais on les multiplie pour les autres et pour discuter, pour échanger des choses. Souvent, c'est un monde de gens passionnés, c'est un monde vraiment passionnant, du coup. Son idée, comme il connaissait très bien, et c'est ça qui est intéressant aussi avec Hubert Debache, c'est que comme il a prospecté, il a eu curiosité d'aller voir à quoi ressemblaient ces plantes en nature. On connaît des jardiniers qui cultivent des plantes en nature en Bretagne, dans leur jardin, et qui n'ont pas du tout d'intérêt pour ce que sont ces plantes dans la nature. Là, c'est différent. On va les voir en milieu naturel et on voit les interactions, on voit avec quelles espèces ces espèces-là ont des affinités, etc. C'est autre chose. On essaie de comprendre comment le groupe a évolué. Et c'est cet intérêt-là qui est pour moi un intérêt de botaniste, en fait, hein, qui nous a fait nous rapprocher et qui fait qu'il a aussi souhaité, au-delà de son action propre, donner une pérennité, une sécurisation finalement à cette collection en la proposant au conservatoire botanique.
Vous êtes comme un refuge, quoi.
Oui, le conservatoire.
Et quand on reçoit du coup cette collection de graines, concrètement, qu'est-ce qu'on en fait ?
Alors, d'abord, c'est une responsabilité. Donc, on accueille du matériel qui vient de l'extérieur. Donc, il y a une manière de le traiter. Il y a une manière de le préparer. Je vous ai dit que majoritairement, on allait placer cette collection en banque de graines. On va évidemment cultiver aussi des plantes. Certaines le sont déjà au conservatoire et visibles dans nos serres. Dans nos serres d'îles subtropicales. Mais pour ce qui est de la banque de graines, avec sa conservation sur un temps, je dirais pas infini, mais indéfini, il y a toute une préparation des graines. Si vous placez des graines qui sont fraîches, qui viennent de se créer, donc riches en eau, directement dans un congélateur à moins 20 degrés, vous aurez à l'intérieur de la graine une formation de cristaux de glace, parce que l'eau qui est dans les cellules va se transformer en cristal et va perforer les membranes de la cellule. Donc ça va tuer la cellule. Donc pour éviter ça, il faut pouvoir dessécher les graines. Donc on va les placer dans des dessicateurs. On va essayer d'abaisser leur niveau de leur teneur en eau à 5-6%. Et une fois qu'on aura cette teneur-là, après les avoir évidemment triées, nettoyées, etc. Mais tout ça est fait, Hubert nous a fait ça très bien. Quand on aura préparé ces graines, on pourra les placer directement en congélation pour un temps indéfini. Donc on va tester en fait la germination de ces graines avant congélation, mettons 50%. Et puis dans 5 ans, 10 ans, on va retester à nouveau. Si jamais ce pourcentage a baissé, on remettra les graines en culture et on refera un stock de graines. Voilà.
D'accord. Et cette collection, est-ce qu'elle peut servir aussi à la recherche scientifique ?
Oui, complètement. C'est la mission aussi des conservatoires et des jardins botaniques, de ceux qui conservent du patrimoine. C'est certes conserver une collection, mais pourquoi ? Donc je vous ai parlé de la conservation, je vous ai parlé de son rôle éducation aussi, sensibilisation, action opérationnelle de conservation, et puis ce rôle de recherche notamment. Donc on diffuse aussi le matériel au travers d'autres jardins botaniques, des universités, pour qu'il soit à la disposition finalement de ceux qui travaillent à améliorer la connaissance de notre patrimoine végétal.
D'accord. Eh bien, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller voir cette collection d'éoniums. Alors, il y en a qui sont déjà là, qu'on peut voir. Il y en a qui sont en train de pousser. Et est-ce qu'on peut voir les graines aussi ou...
Alors, les graines, c'est plus difficile, hein, parce que d'abord, ce sont des graines minuscules. Elles sont conservées en banque de graines, dans une sorte de batterie de congélateur, en fait. Donc là, elles sont vraiment dans les labos. C'est un peu plus compliqué. Mais par contre, si vous voulez voir des éoniums, vous pouvez évidemment passer au Conservatoire botanique national de Brest, donc Vallon du Stangalard. Rampe du Stangalard, 29200 en Brest. Et vous verrez là des plantes à la fois en serre dans la serre des îles subtropicales. Donc vous verrez plusieurs espèces d'éoniums, dont des éoniums d'ailleurs éteints dans la nature et qui sont donc présents ici en culture et qui proviennent de la ferme botanique de Kerveat, de Hubert de Bâche.
Est-ce que le jardin est ouvert à tous ?
Oui, le jardin est ouvert à tous et gratuit. Tous les jours, simplement les serres en période scolaire, là bientôt les vacances de Pâques, sont ouvertes et payantes.
D'accord.
Voilà, se renseigner sur le site internet du conservatoire.
Et est-ce qu'il y a des événements ou des animations à venir au jardin ?
Oui, on a des animations à venir. On a différents temps. On a notamment le 1er mai qui va venir là avec la fête des plantes organisée par l'Arche aux plantes. Donc l'association des amis du conservateur botanique, qui est une fête organisée pour des pépiniéristes, en fait, par les pépiniéristes qui viennent proposer des plantes de collection pour le public. Voilà, organisée par donc l'Arche aux plantes. Et puis ensuite, vous aurez d'autres événements un peu plus tard, dont la participation au programme Science Comes to Town avec Brest Métropole. Et ce, pour le 27 juin.
Voilà, d'accord. Voilà.
Donc le programme est présenté sur notre site internet.
C'est noté. Eh bien, chers auditeurs, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site et à aller vous promener et observer, admirer les plantes au jardin botanique. Merci beaucoup, Stéphane, d'être venu nous parler de tout ça.
Merci à vous.
Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté C'est vous qui le dites. Donc, vous pourrez retrouver l'émission en podcast sur radio-u.org. Il n'y aura pas d'autres quotidiennes le reste de la semaine, mais on se retrouve le lundi 6 avril. À la semaine prochaine.